Quel désordre. C'est pas possible, qui est le responsable de ça? Bonjour, alors moi je m'appelle Walter Alexandre et je suis le responsable de cette bande de zouzous. Ça va, ils ont assuré, non? C'était un peu difficile pour eux, hein. Ils avaient un peu le trac, mais c'est cool. C'est vraiment chouette. Faudra vraiment qu'on balaye après, hein. Ça va être compliqué. Alors pour ma part, j'ai plusieurs métiers, dont notamment évangéliste, c'est-à-dire comment vous annoncer la parole, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait dans le monde pour nous alors qu'on n'a plus de référence par rapport à Dieu et qu'on n'a plus de référence chrétienne. Alors c'est plus qu'un métier, hein, c'est tout mon désir justement de vous annoncer cette bonne nouvelle, mais on y reviendra. En même temps, annoncer une bonne nouvelle avec un homicide, c'est compliqué, non? Bon, ça va, il se balade encore avec sa flèche dans le front, mais ça devrait être bon. Alors, en voyant l'histoire de Cain et Abel, vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que les frères et sœurs n'ont pas les mêmes caractères? C'est bizarre, non? Hein? Franchement, ils ont les mêmes parents, ils ont la même éducation et pourtant ne fonctionnent pas de la même manière. Mon frère et moi, par exemple, on a 2 ans et demi de différence. Alors, je suis l'aîné, mais c'est lui le plus grand. Bon, par contre, je suis le plus beau. Bon, alors, je peux dire ça parce qu'il n'est pas là, d'accord? Mais alors que j'étais plutôt calme, pas vraiment chiant, mon frère, lui, faisait bêtise sur bêtise. Mes parents devenaient dingues avec lui. Un jour, ma mère, elle a eu un coup de fil du vigile qui lui a dit « Bon, ben, on a chopé votre fils, a essayé de voler un CD. » Ah, il n'était pas fier ce jour-là. Et puis, ma mère me disait « Aïe, 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 si je pouvais vous mélanger tous les deux pour que tu fasses un peu plus de bêtises et lui beaucoup moins, ça serait quand même bien. » Bon, je vous rassure, mon frère a changé, il s'est bien plus assagi, il s'est posé. On remercie sa femme. Et moi, de mon côté, je ne sais pas si je fais plus de bêtises qu'avant. C'est possible. Mais c'est marrant parce que la Bible nous montre justement quelques exemples de frères qui se sont fait la guerre. Et ça commence tout de suite par la deuxième génération. On n'a pas besoin d'attendre longtemps, hein. Deuxième génération et c'est déjà la guerre entre les frères. Ce qui est dingue avec la Bible, c'est qu'elle est un miroir de notre société. C'est un miroir qui nous montre toutes les difficultés que nous avons à vivre ensemble. C'est un miroir sur soi-même et souvent je vois trop d'histoires qui me ressemblent. Waouh ! En ouvrant la Bible, des fois je me vois dedans. Et la Bible commence comme ça, où Dieu créa l'homme, puis la femme, les installa dans le jardin d'Éden pour cultiver et s'occuper des animaux. Alors le problème, c'est plutôt les animaux qui se sont occupés des hommes, parce que la Bible nous dit que le serpent tenta la femme, et la femme alla chez son mari, chez son homme, pour également lui demander de désobéir et de manger le fruit défendu. Vous avez vu ce schéma qui s'inverse? Ils se font chasser du jardin d'Éden et vivent une vie difficile. C'est là, dans ces circonstances-là, que Cain naît, puis, quelque temps après, son frère Abel. Deux frères et pourtant tellement éloignés. Ils ont les mêmes parents, les mêmes galères, mais pas le même cœur. Un texte qui a des milliers d'années et pourtant toujours tellement d'actualité, non? On en voit souvent, hein, quand on ouvre le journal, quand on ouvre la radio ou la télé, hein. Et c'est la première fois dans ce texte, la toute première fois dans ce texte, que Dieu instaure un mot nouveau, un concept nouveau, un mot qui va faire couler beaucoup d'encre et beaucoup de blessures, un mot qu'on n'aime pas, le péché. Je vous le cherche. Voilà. Dieu instaure, pas un chien, hein, ça aussi il l'a créé, mais non, instaure. Enfin, c'est pas lui qui instaure, hein, c'est l'homme qui a décidé comme ça. Et c'est dans ce texte biblique que nous voyons la première fois le mot apparaître, le péché. Ouais, mais en même temps, quand on dit péché, c'est plus trop à la mode en ce moment, hein, c'est devenu assez has-been. Et pendant pas mal d'années, j'ai essayé de changer ce mot par autre chose, comme le mal, les mauvaises actions, mais c'est difficile de changer ce mot. Et on ne, même si c'est plus à la mode et que c'est plus vraiment au goût du jour, on ne peut pas le changer. Et je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas le changer et pourquoi on n'aime pas entendre ce mot. Le mot péché signifie littéralement rater la cible. Vous savez, ce sont les archers qui essayent de viser leur cible, mais ils la loupent. Voilà, ça c'est le péché, c'est louper finalement sa cible. Nous sommes faits de corps, d'esprit et d'âme, et que tu crois en Dieu ou non, ton âme a envie d'adorer. Et c'est normal, hein, elle est faite pour adorer. Mais souvent, nous voulons adorer quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Et nous voilà déjà qu'on pêche. Déjà, on loupe notre cible. Dieu est là depuis le commencement. Il nous a créés corps, âme et esprit. Il veut depuis le commencement avoir une relation avec nous. Et depuis le commencement, nous ratons inlassablement la cible. Nous nous éloignons toujours encore plus loin et nous ratons toujours encore cette relation avec Dieu. Le péché, voilà ce qui provoque le premier meurtre de l'histoire. Et voilà que des milliers d'années après, l'homme continue à rater sa cible. Alors, je vous rassure, il vise très bien son prochain pour le tuer, ça je lui fais confiance, mais rate toujours aussi bien sa cible pour avoir un rendez-vous avec Dieu. Et c'est Paul qui nous dit dans Romains, alors ça c'est une lettre qu'on retrouve dans la Bible, c'est Paul qui nous écrit à l'église de Rome et il nous dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais et je commets le mal que je ne voudrais pas. » Le péché, on rate sa cible. Et vous savez pourquoi le mot n'est plus à la mode? C'est parce que nous ne voulons pas l'entendre. Il faut que nous l'oublions. Notre société fait tout pour le mettre à l'écart de notre vocabulaire. Et pourquoi? Parce que ce mot pointe du doigt toutes les fois où nous loupons notre cible. Et je vous garantis que je la loupe souvent. À chaque fois, et je n'ai pas besoin de commettre un meurtre pour louper ma cible, mais à chaque fois que je parle mal à ma femme ou mes enfants, je loupe ma cible. À chaque fois que je vois une autre femme et que mes yeux la désirent, je loupe ma cible. À chaque fois que l'argent est devenu le numéro un au-dessus de Dieu, eh bien, je loupe encore ma cible. À chaque fois que je me mets moi à la première place, eh bien, je loupe encore ma cible. Nous ne voulons plus avoir affaire avec ce mot car c'est trop déprimant. Parce qu'à chaque fois, je tape à côté. Mais Dieu est le plus merveilleux des psychologues que je connaisse. Il vient, te parle et pourtant ne l'écoute pas. Au verset 6, dans l'histoire de Caïn et Abel, on voit Dieu qui dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Alors, c'est même encore pire que ça, parce que si nous prenons le mot hébraïque, si nous traduisons, on pourrait le traduire par « Pourquoi cela te brûle-t-il ? » Dieu a compris dans quel état était Caïn. Il brûlait de l'intérieur, il brûlait de jalousie par rapport à son frère. C'est inadmissible. Moi, Caïn, le chouchou de ma mère, on ne m'a rien refusé depuis le début, et voilà qu'un morve vient et il a les préférences que de Dieu. C'est pas normal. Alors que moi, je suis solide comme un roc. Lui, il est que fumée et frêle. Et voilà que Dieu le préfère. Caïn, pourquoi es-tu irrité. Pourquoi cela te brûle-t-il? Pourquoi ton visage est-il abattu? Ça ne vous est jamais arrivé de brûler de l'intérieur, d'être jaloux de l'autre. J'ai envie de l'autre, de ce qu'il a, de sa voiture, de sa maison, de sa femme, de sa carrière, de son charisme. Ça vous est jamais arrivé? Et combien de fois Dieu, à travers une personne, une parole, vous a tendu la main? Et combien de fois on l'a refusé? Dieu tend sa main à Caïn pour l'aider à sortir de son incendie intérieur. Ouvre-moi la porte, Caïn, pour que j'éteigne le feu qui brûle tes entrailles. Et que fait Caïn? Rien. Il ne répond pas. Vous savez, l'homme dans sa grotte, en train de ruminer. Ouais, ça m'arrive de temps à autre. Et là, quand ma femme me tend sa main pour me faire sortir de ma grotte intérieure, là, j'ai toute ma fierté d'homme. J'ai toute ma testostérone pour dire « Non, non, moi je suis un bonhomme, moi, je suis un mec, je suis solide comme le roc. Non, non, j'ai besoin de personne. » C'est bon les mecs? Vous vous y retrouvez là? Ou faut que je demande à vos femmes? On aime bien se réfugier dans nos grottes intérieures, hein, ruminer et brûler de l'intérieur. Mais Dieu est là et il te tend sa main. Il veut t'aider à sortir de ta grotte. Il aimerait tellement que tu ne rates pas ta cible. Louper la cible, c'est louper le rendez-vous que tu as avec Dieu. Louper ta cible, c'est louper le rendez-vous que tu as avec ton prochain. Louper la cible, c'est l'enfermement que tu t'imposes à toi-même. Penser que tu peux tout faire par toi-même, c'est vivre dans une illusion. Tu passes à côté de l'évangile et tu vis une sorte d'enfer. Il suffit de regarder les grands de ce monde qui se font la guerre les uns les autres, ils s'enferment, ils se mettent au centre, s'adorent eux-mêmes et tuent leurs frères. J'ai un cousin, dans le temps, je lui ai un jour expliqué, je lui ai dit « Moi j'ai envie de suivre Jésus, j'ai envie de me baser de toute ma vie, de la mettre sur Jésus. J'ai plus envie de vivre par mes propres moyens, mais me laisser guider par Dieu. » Waouh, il a eu du mal. « Non, j'ai pas envie moi. Moi, je travaille dur, c'est pour moi ce que je gagne. » Et mes efforts me récompensent. À quoi ça sert de gagner tout l'or du monde pour perdre sa vie? Pourquoi cela te brûle-t-il? Caïn pensait qu'en éliminant le problème de l'autre, le problème disparaîtrait. Mais le problème, c'est pas l'autre. Le problème, c'est lui. Il voulait se libérer de l'autre, se libérer de Dieu, montrer qu'il est un bonhomme là-dedans. Il voulait se libérer et tout aussi trop souvent nous voulons nous libérer des lois, des bonnes conduites, nous libérer de Dieu qui nous ferait de l'ombre à nous-mêmes. Imaginez, vous êtes en train de rouler sur flanc d'une montagne. Vous avez un virage en épingle de cheveux et puis vous avez une glissière de sécurité entre le précipice qu'il y a et votre voiture. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Est-ce que vous allez vous dire « Non, je déteste les garde-fous, enlevez-moi ça, démontez-moi tout ça, ça je veux pas vivre avec des garde-fous. » Non, généralement on se dit pas ça, on se dit « Ouh, ça c'est pas mal, hein, parce que si j'ai un accident là, je me retrouve 20 mètres plus bas, c'est pas mal qu'on ait mis ces garde-fous. » Eh bien, c'est pareil. Dieu est là pour nous mettre des garde-fous, pour nous préserver de notre liberté. Quand il n'y a plus de référence à Dieu, on a doucement un glissement. Si tu enlèves Dieu, tu renvoies l'autorité à autre chose. Et après Dieu, nous avons la société, a mise en place la nature. Oh là, c'est plus Dieu qui va nous dicter ce qui est autorisé, c'est la nature. Et à fur et à mesure, on s'est dit que bon, ben, finalement, la nature, elle n'a pas trop le cadre d'autorité. Du coup, pour nous enseigner ce qui est vrai, du coup, c'est plutôt notre perception à la nature, c'est-à-dire nous. Et chacun redéfinit finalement la morale, ce qui est bon, ce que tu préfères, ce qui est dans mon cœur. Je sais que ce que j'ai dans mon cœur doit être juste, alors j'ai raison, c'est la vérité, et je pense que c'est bon et vrai pour moi, donc ça devient ma norme. Et me voilà, je me remets au centre de l'équation. Je viens de nouveau de virer Dieu et je me suis de nouveau mis au centre. Vous voulez un exemple de ce qui, de ce que notre société fait bien ou mal, comment elle définit le bien, le mal? Et on va faire un petit jeu. On va un peu regarder d'après ce que notre société nous dit, ce qui est bien, ce qui est mal, et ce que Jésus, quand il était sur terre, nous a montré, ce qui était bien ou mal. Alors, d'après vous, dites-moi, qu'est-ce que notre société prône actuellement sur le bien ou le mal? Qu'est-ce qu'elle prône-t-elle comme valeur? Dites-moi un peu. Allez-y, n'ayez pas peur. Ouais. L'ambition, ça c'est pas mal. Ouais, l'ambition. Moi j'ai mis ça dans le succès, effectivement. Que nous dit Jésus quand il était sur terre? Il a rejeté le culte de la réussite, de l'ambition. Hein. Le diable, un jour, l'a transporté sur une haute montagne. Il lui a montré tous les royaumes qu'il y avait ici et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Et Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras ton Dieu. » Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Ok, l'ambition déjà, Jésus, il la jette. L'ambition que le monde nous donne. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme valeur que le monde pourrait nous donner? Allez, il y a des trucs, c'est facile. Ah, le bien-être. Ah, je ne m'attendais pas à ça tout de suite. Effectivement, le bien-être. Le bien-être, je le mets dans une catégorie qu'on va appeler le confort. Moi, j'aime bien mon canapé. Canapé, c'est sympa. Hein. Mais que nous dit Jésus quand il était là? Il nous dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, n'a pas d'endroit où poser ma tête. Le bien-être, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser, parce que ça nous encroûte. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors, j'ai entendu l'argent. Alors, l'argent, oui, effectivement. Ça, la société à foison. Hein. Ce qui m'horrifie le plus, c'est quand je vois effectivement les clips que certains jeunes regardent au collège ou au lycée plutôt. Waouh, on parle souvent que d'argent dedans. Bon, aussi du sexe, mais beaucoup d'argent. Et voilà. Que nous dit Jésus quand il était venu? Il nous a demandé aussi, à un moment donné, de vivre dans la simplicité. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne, c'est une petite mythe, et la rouille détruise et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alors, j'ai encore deux derniers petits trucs pour la société. Marianne. La puissance, oui, exact. La puissance, alors attends, qu'est-ce que j'ai? Oui, être populaire, être important. Jésus, il récuse hein, la popularité. Hein. Il nous dit, d'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous-même, vous voulez être applaudis les uns des autres et que vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Et un jour même, Jésus s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Alors ça, c'était un truc de dingue, ça c'était révolutionnaire dans le temps, avoir un maître qui s'abaisse et qui s'humilie pour laver les pieds de ses disciples. Ouh, ça c'était quelque chose. Ok, la puissance. Et alors j'ai un dernier truc, je ne sais pas si vous allez le trouver. La liberté, Eliane, ouais, ça c'est vrai. Alors, la liberté, ouais, alors est-ce que je peux le mettre dans ma dernière catégorie ? Je suis en train de chercher, mais pas tout à fait. Mais c'est vrai qu'on n'est pas loin aussi, il faudrait qu'on réfléchisse sur la liberté. Ouais. La laïcité, oui, ça aussi c'est le fait de virer Dieu souvent, mais c'est pas de ça que je pensais. Je pensais à la souffrance et l'échec. Notre monde ne veut pas de la souffrance et ne veut pas de l'échec. Pensez, je pense que vous avez compris que Jésus, qui finit sur une croix, cloué sur une croix, il n'a pas évité la souffrance ni l'échec. Voilà. Le monde traverse-t-il en quelque sorte les bonnes valeurs ? La Bible nous dit « malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien ». Mais Jésus va mettre au contraire des valeurs comme l'amour, le pardon, où l'échec n'est pas l'échec que le monde te donne. Et quand Adam et Ève, ils ont mangé leurs fruits défendus, ils ont provoqué une catastrophe. Ils ont provoqué une réaction nucléaire, c'est-à-dire une réaction en chaîne qu'on ne peut pas arrêter. Ils ont, par leur désobéissance, provoqué l'arrivée du mal dans ce monde. Mais le plus grand problème encore, plus grand que l'arrivée du mal dans notre monde, c'est notre séparation avec Dieu. Notre relation a été brisée. Dieu déteste le mal. Il a en horreur ton mensonge, ta convoitise. Il a en horreur ma jalousie et mon regard de haine sur l'autre. Il a en horreur nos petites magouilles et nos demi-vérités. Il a en horreur notre péché. Que Dieu dit à Caïn ? Il lui dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Et si tu agis mal, le péché, celui-là, il est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Vous savez à quoi notre chien péché ? Il ressemble quand on le nourrit un peu trop. Vas-y Elias, balance-nous une vidéo. Mets-nous le son aussi Jean-Luc. C'est une vidéo que j'ai trouvée pour les JO de 2020, les JO d'hiver. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble notre péché si on le nourrit un peu trop. Bon, ils ont fait un partenariat avec un film aussi. Ça, c'est un vélociraptor. C'est pas sympa du tout. Quand on nourrit notre péché, notre chien se transforme en ça, vélociraptor. Mais on peut encore le nourrir un peu plus. Et notre péché peut devenir encore plus gros. Ouh, ça va ? Ça va ? C'est pas trop effrayant, c'est bon ? Alors, je ne vous rassure pas. C'est pire encore le péché qu'on nourrit. C'est pire que le tyrannosaure. Et pourtant, ouais, ça ne rend pas compte, hein. Même le tyrannosaure qui est effrayant, ça ne rend pas compte de la gravité du péché, combien c'est gravissime. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Vous savez, ce que toute la Bible vous nous montre, c'est qu'on n'arrivera jamais à dominer sur notre péché. On sait qu'il est là, on sait qu'il est couché à notre porte et on se fait tellement manger par lui. Le mensonge, la pornographie, combien de fois moi je me suis fait manger par ça ? L'alcool, la drogue ou autre chose, combien de fois on se fait manger ? Et toute la Bible nous montre qu'on n'y arrivera pas. Et les conséquences de tout ça sont terrible. Dieu a horreur du péché. Il nous a, nous aussi, en horreur parce qu'on a le péché en nous, parce qu'on nourrit ce chien ou ce tyrannosaure. Et les conséquences, c'est qu'à notre mort, Dieu se détournera de nous, car il est trop saint. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Nous en sommes remplis. Et que dit la Bible sur un monde sans Dieu ? Elle appelle ça l'enfer. L'enfermement de soi-même, sans possibilité d'avoir une main qui t'est tendue, sans possibilité d'éteindre le feu qui brûle tes entrailles, toute la haine où tu es livré à toi-même, sans bouée de secours, l'enfer, une éternité sans Dieu. Mais Dieu nous aime tellement, et chacun d'entre nous, qu'il a décidé de prendre toute la misère sur lui. Dieu t'aime tellement qu'il a décidé d'envoyer son propre fils, Jésus, mourir pour toi. Et pourquoi est-ce que Jésus est mort pour toi ? Parce qu'il a fallu qu'un homme saint, un homme qui n'a jamais ouvert sa porte au péché, et qui prenne cette faute, qui se décharge, que toi tu peux te décharger de tout ton péché qui te pèse tellement lourdement sur nos épaules. Personne d'autre peut nous décharger, ni un prophète, ni un autre Dieu, ni les bonnes actions qu'on pourrait faire. Rien en dehors de Jésus, qui lui peut te prendre ce poids, car il est sans péché et il a su dominer sur le péché. Jésus, Dieu incarné dans un homme, prêt à mourir pour toi, uniquement par amour, parce qu'il t'aime tellement fort et qu'il te tend cette main. Et au jour du jugement, quand Dieu viendra, et qu'on pourra le voir, en réalité, on pourra être saint, sans faute. Mais où est passé ce péché qui me colle à la peau, que je n'arrivais pas à me débarrasser ? C'est Jésus qui l'a pris. C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui a subi la colère de Dieu à ta place, il y a 2000 ans, au mont Golgotha, sur une croix. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Alors si ce matin, tu veux te débarrasser de ton péché, qui te colle si lourdement sur toi, viens Jésus. Il te tend cette main pour te dire, j'ai tout pris pour toi, j'ai tout accompli là sur la croix. Tu n'as rien d'autre à faire que de m'ouvrir la porte. Pas ouvrir la porte au péché, mais de m'ouvrir la porte à moi et m'accepter dans ta vie. Pas besoin d'attendre d'être parfait, parce qu'on n'y arrivera pas. Faisons ce chemin ensemble. Et ce matin, j'ai envie de t'encourager à venir à Jésus. Alors si ce matin, tu as envie de venir à Jésus, je te propose simplement de lever par exemple ta main. Si tu as envie de suivre Jésus, si tu veux dire, ouais tiens, j'ai envie de te donner tout ce poids que j'ai, toutes mes fautes et tous mes péchés. Alors, si ça vous intéresse, Jésus, levez la main simplement et je pourrai prier pour vous. Il faut une dose de courage hein, pour lutter contre ce monde qui ne veut pas forcément de ce cadeau. Il faut une dose de courage pour dire à Jésus, « Oui, je te veux dans ma vie. » Il faut une dose de courage pour prendre la main de Jésus qui te tend. C'est un choix que j'ai fait il y a bien longtemps. Et je suis heureux de suivre Jésus dans toutes les circonstances de ma vie, même si c'est toujours encore difficile, mais ce n'est pas grave, parce que Jésus est là pour adoucir tout ça. Et il est là pour m'aider dans les difficultés. Ça ne réglera pas tout, hein, mais lorsque tu seras face à Dieu, ben, tu n'auras pas honte. Je vais prier. Jésus, je suis conscient que je n'y arriverai pas. Je suis conscient que dès le matin, je n'arrive pas et je suis toujours là à te décevoir. Et j'arrive à décevoir les autres qui m'entourent. Je suis rempli de péché. Alors oui, Jésus, rentre dans ma vie. Prends mon péché, prends-moi léger. Je veux te donner vraiment toute ma vie. Je veux te suivre et t'ouvrir ma porte. Que tu éteignes le feu qui brûle mon être. Jésus, remplis-moi de ton esprit, que je puisse devenir saint comme toi tu l'as été. Amen. Il y a tellement de choses à dire encore sur l'histoire de Cain et Abel qu'on pourrait en faire plusieurs cultes, mais je vous rassure, je m'arrête là. Mais j'aimerais quand même encore vous donner un point sur cette histoire. Il n'y a pas eu de préférence de Dieu pour Abel. Ce n'était pas son chouchou. C'est juste qu'Abel avait donné avec un cœur reconnaissant, alors que Cain voulait montrer combien il était fort. En réalité, Cain tua Abel, mais Cain était déjà mort depuis longtemps et son cœur était devenu complètement insensible à Dieu. Mais Abel vit. Amen.